Bonjour, je m'appelle Marielle et j'ai le plaisir de vous accueillir sur Compresse et Sparadra, le podcast qui donne la parole aux soignants. Ici, on parle de vocation, d'expérience, de déception, de choix de carrière, mais aussi de remise en question et de moments de bonheur. L'idée, vous faire découvrir ces métiers de l'ombre, l'envers du décor du milieu hospitalier, par le biais de partage d'expériences et d'interviews sans tabou. Aujourd'hui, je donne la parole à Sandra. Après une carrière brillante dans le domaine de la coiffure, ce sont deux événements familiaux difficiles qui la feront envisager une carrière d'aide-soignante. Sandra vous prouvera dans cet épisode qu'une reconversion est envisageable et ce à tout âge. Bonne écoute! Bonjour Sandra!
Bonjour Marielle!
Comment vas-tu?
Très bien, merci!
Alors les auditeurs ne le savent peut-être pas, mais quand on enregistre ces épisodes à distance, moi j'ai toujours la chance de voir mes invités à l'écran. Alors je vois un rayon de soleil magnifique derrière toi, donc je suis ravie de voir ça.
Ça fait plaisir.
Alors Sandra, on va parler de, c'est ce que je te disais en off, voilà, d'une question qui revient beaucoup moi dans les messages qu'on m'envoie, c'est la question de la reconversion. Est-ce qu'on peut envisager de se reconvertir vers un métier du médical, du paramédical, après X années d'exercice dans parfois des domaines qui n'ont rien à voir, alors tu vois, la comptabilité, la vente ou autre. Tu vas pouvoir nous prouver aujourd'hui que c'est possible, j'ai déjà reçu d'autres invités qui ont pu nous prouver ça, mais tu as une très très belle histoire de vie à nous raconter, une vie professionnelle qui est riche, et je suis vraiment ravie de te recevoir aujourd'hui.
Je te remercie, donc voilà, moi je pensais pas que mon histoire allait t'intéresser, mais voilà, je peux le dire, je suis une ancienne coiffeuse, et ça fait maintenant 8 ans que je suis aide-soignante, et ravie de l'être.
Oh là là, génial. Alors, est-ce que tu peux commencer par peut-être te présenter rapidement, voilà, nous voilà. Dire où tu habites éventuellement, si tu as des passions dans la vie, pour apprendre à te connaître.
Oui, donc moi, je m'appelle Sandra, j'ai 32 ans, je suis récemment mariée, j'ai deux petites filles, dont une qui a 4 ans et l'autre 2 ans, et je suis dans une très belle région que tu dois apprécier parce que je suis du côté de la Savoie. Voilà.
Ah, oui, juste à côté de chez moi. Bon, bah super. Alors, on va vraiment reprendre les bases. Est-ce que devenir coiffeuse, du coup, pour toi, était une évidence? Est-ce que c'est un métier dont tu rêvais déjà petite?
Alors, oui, tout à fait. L'évidence pour moi, c'était vraiment de devenir coiffeuse. J'ai des souvenirs depuis toute petite. J'avais ma meilleure amie, il me semble qu'on était au CE1. Elle disait « je veux devenir institutrice » et moi je lui disais « mais moi je veux devenir coiffeuse ». J'étais fascinée par la coiffure. Je me souviens que je passais devant les galeries marchandes, il y avait toujours des coiffeurs et l'odeur, j'étais appelée. Ouais. Vraiment, j'ai toujours voulu être coiffeuse et je me suis orientée vers la coiffure au collège, voilà, à la fin de mon collège. Je suis partie en coiffure, c'était pas facile dans le sens où j'ai toujours été soutenue par mes parents. Moi, mes parents, ils venaient d'un milieu ouvrier, donc ils m'ont dit « tu veux devenir coiffeuse ? Parfait, fais coiffeuse, sois la meilleure des coiffeuses, fais un métier qui te passionne au quotidien, parce que le travail va prendre une grande partie de ta vie. » Donc, je me suis orientée, voilà, moi, je me revois parler à mon prof principal qui me disait « qu'est-ce que tu veux faire plus tard ? Je veux devenir coiffeuse. » Il me disait « mais tu as une moyenne générale de 15 ?» Tu sais que tu peux aller en bac, tu peux aller en bac général dans un premier temps, voilà. Au début, j'avais un petit peu de, faut reconnaître qu'il y a encore 20 ans en arrière, c'était assez mal perçu la filière professionnelle.
C'est quelque chose, malheureusement, qu'on entend beaucoup. C'est très triste, mais ouais, même, alors, peut-être un peu moins maintenant, mais moi, j'ai plein de gens autour de moi qui ont une histoire similaire à la tienne.
Ouais, tout à fait, c'était très mal perçu. Donc, j'ai même été convoquée au conseil de classe avec mes parents. Vous êtes sûre que votre fille, elle doit aller en coiffure, elle a des capacités. Et du coup, j'ai eu des super parents à ce moment-là qui m'ont dit, ma fille va être coiffeuse, elle sera coiffeuse. Ah, et super. Puis, donc, j'ai trouvé un maître d'apprentissage assez facilement. Donc je suis partie à la fin de mon collège, j'ai obtenu mon brevet avec mention, voilà, je suis partie dans la filière professionnelle. Et là, ça a été, tu passes carrément du collège où t'es un peu coucounée, et là tu passes dans le monde adulte. Clairement,
t'arrives,
première année de CAP, tu travailles, t'es aux 35 heures, t'as 5 semaines de vacances comme un salarié. Et voilà, toujours motivée, j'avais une patronne très très dure. Qui était connue dans ma ville pour elle était connue. Tout le monde savait que si on passait la bande en tant qu'apprenti, tout le monde voulait nous embaucher derrière.
Ah d'accord, c'était la bonne ligne à avoir sur le CV quoi.
Tout le monde la connaissait et d'ailleurs j'ai plusieurs fois été débauchée pour travailler ailleurs, mais voilà, je suis restée là-bas, donc j'ai commencé mon apprentissage là-bas. Voilà mon parcours un petit peu, donc j'ai commencé en CAP. Et ma première année de CAP, mon papa a eu un grave accident. Voilà, je venais d'attaquer, depuis quelques mois et mon papa a eu un grave accident. Mon papa, il faut savoir qu'il était maçon Donc, il a chuté, alors qu'il avait toutes les sécurités qu'il pouvait avoir. Il a chuté sur un chantier. Traumatisme crânien. Et en fait, je me revois, c'était un 11 septembre. On reçoit l'appel et c'est moi qui décroche à ce moment-là. C'était à midi, la police qui nous appelle. Donc, je dis oui, bonjour. Ça s'est passé comme ça. Oui, bonjour. Écoutez, il faut venir. Donc, c'était dans un CHU. Là, il avait été transporté dans un CHU. Il faut venir impérativement. Votre papa a eu un accident. Mais en fait, maintenant que je suis dans le médical, je sais qu'il ne donne pas de détails. Mmh. Donc, donc, je passe le téléphone à ma maman. Nous voilà partis à l'hôpital et je me revois. Alors, c'est dans une salle de déchocage, dans la salle d'attente. Donc, je vois les médecins réanimateurs arriver. Maintenant, je le sais parce qu'ils étaient habillés en bleu. Et là, en fait, on nous annonce que notre papa a un grave traumatisme, qui doit être hospitalisé et qui doit être surveillé dans les jours à venir. Là, je vois que tout le monde s'effondre autour de moi. Il y a ma maman, il y a ma sœur. Et je suis la seule, je ne sais pas comment expliquer, qui comprenait ce qui se passait. Les termes médicaux me parlaient. Donc voilà, c'est vrai que j'étais devenue un peu la référente parce que je comprenais ce qu'on me disait. On me parlait de pression intracrânienne, on me parlait de tout ça. Donc les jours ont suivi. Mon papa, malheureusement, a dû être opéré. Donc il a subi une craniectomie qui s'est passée comme elle s'est passée. Il a eu des graves séquelles quand il s'est réveillé. Donc il a été par la suite hospitalisé en soins de suite et réadaptation avec des graves séquelles, aphasie, il n'aimait plus pied droite, aucun moyen de communication, il était devenu frontal, ce qu'on appelle, des lésions frontales. Donc du coup, ça a suivi, entre ma carrière professionnelle qui débutait, et mon apprentissage et cet accident qui est arrivé dans ma vie et qui prenait beaucoup de place. Tous les jours, on était parce qu'il fallait continuer à travailler aussi, sinon si on va avoir son examen. Pendant un an, mon papa a été hospitalisé, 2 ans même, il a été hospitalisé en nécessaire. Voilà. Et en parallèle, donc moi, mon apprentissage se passait bien, je gardais le cap parce que je pense que je me disais, c'est mon avenir qui joue. Ma maman, elle ne peut pas tout porter sur ses épaules. Et du coup, j'ai toujours été perfectionniste dans mon travail. J'essayais vraiment d'apprendre. Parce qu'il y a encore la théorie. C'est un examen qu'on passe. Il faut gérer le côté professionnel, mais il faut gérer aussi la théorie. Et je pense que... Donc, j'ai obtenu mon CAP. Mon papa toujours dans le drame. J'avais 16 ans. 17 ans, 18 ans. Vers l'âge de 20 ans. Donc là, je suis en BP. Tout se passe bien. Ma maman est mon modèle de coiffure. On vit toujours avec l'handicap de mon papa, qui est un peu compliqué. Il est toujours en soins de suite et réadaptation parce qu'il rentre dans aucune case. Il est trop lourd pour être à la maison, autonome. Trop lourd pour être dans une institution classique. C'était très compliqué parce qu'à l'époque, mon papa rentrait dans aucune case. Donc, il était toujours dans un centre qui allait fermer, malheureusement. Et ma maman, elle avait une pression en se disant « Comment on va gérer l'handicap de ton papa? Il est trop lourd, comment on va faire ?» Et ma maman, à ce moment-là, elle ne s'écoutait pas beaucoup. Et je voyais qu'elle fatiguait. Donc, je disais « Maman, il faut aller voir le médecin. » Avec ma sœur, on est les trois, on appelle. Ma sœur, qui est ma sœur aînée. Moi et ma maman, on était vraiment un trio. On nous appelait un peu les sœurs Halliwell. Je ne suis pas la référence.
On a une photo. Ceux qui sont nés dans les années 80-90 ont la référence.
On a la référence. On a découvert que ma maman avait un cancer. Ça a été... Mais moi, c'est rigolo. Est-ce que j'étais dans le déni? Pour moi, ma maman, elle était invincible. Il ne pouvait pas nous arriver ça dans notre vie. On ne pouvait pas gérer l'handicap de mon papa, qui avait été déjà un tsunami, parce que c'est un deuil à faire, clairement.
Bien sûr.
On connaît les étapes un peu du deuil.
C'est une maladie qui s'installe du coup un peu à bas bruit, parce que elle est très investie dans la santé de ton papa.
Et, tout à fait. C'est clairement ce qui s'est passé. Puis nous, il faut qu'on continue, parce que du coup, le plus gros salaire, mon papa, il travaillait. Du coup, mine de rien, il y a un chamboulement même économique qui se passe, parce que ma maman ne peut pas tout faire. Donc je me suis dit... À ce moment-là, j'étais même contente d'être dans la filière professionnelle parce que clairement, je me suis dit, est-ce que ma maman n'aurait pas pu assumer nos études avec ma sœur? Donc, ma sœur était encore en études et je me suis dit, rien n'arrive par hasard. Là, j'étais autonome financièrement. Je pouvais aider ma maman à mon niveau. Elle ne m'a jamais rien demandé, mais on pouvait aider tout ça. Et là, ma maman, la maladie s'installe. Mais ma maman, c'était quelqu'un de... Elle était malade, mais elle était très portée sur les autres. Tout allait toujours bien. Et en fait, ben voilà, ma maman, à l'annonce du cancer et à son décès, il s'est passé moins d'un an. Et en fait, jamais un médecin nous a dit clairement « elle va mourir ». Parce que je pense que la charge émotionnelle était tellement lourde pour même les équipes. Elles voyaient bien dans la situation qu'on se trouvait, avec notre papa en situation de handicap, notre maman qui portait beaucoup. On n'a jamais eu le mot, et ça, j'aurais eu besoin de l'entendre. « Votre maman va partir ». Elle va décéder. On est dans les. Je pense que maintenant, ça ne se pratique plus du tout. Il y a des psychologues qui sont mis en place. Mais voilà.
J'espère, en tout cas. Ouais, ouais. Mais puis, on peut faire ça parfois en pensant à bien, en disant on ne va pas mettre les gens face à une réalité. Mais en fait, l'imaginaire construit tellement de choses que parfois, il vaut mieux que les choses soient dites.
Tout à fait.
C'est pas forcément. Enfin, les équipes qui communiquent mal à ce sujet-là. On ne peut pas forcément dire que ce sont de mauvaises équipes, mais en tout cas, en termes de communication, ce n'est pas la bonne solution. Il faut, il faut savoir annoncer la réalité de la vie. Hein,
Mais je pense, et clairement, ce que je disais avec ma soeur, on en a reparlé il n'y a pas longtemps, je disais, moi, j'aurais eu besoin, comme je le vis maintenant dans mon travail, qu'on nous prenne en entretien et qu'on nous dise clairement, là, votre maman, elle est dans, il lui reste quelques jours. Parce que même si je lui ai tout dit, j'ai aucun regret, à l'inverse de mon papa, où on n'a pas pu faire notre deuil... voilà notre boucle, j'aurais aimé d'avoir ces petits moments, rien qu'il y a entre elle et moi, lui dire, voilà, je vais te dire au revoir. Mais bon, voilà, on ne va pas faire marche arrière. C'est comme ça, c'est la vie. Et puis, c'est ce qui fait que je suis devenue la personne que je suis aujourd'hui. Donc, je suis au clair. Je suis professionnelle. Donc là, je venais de terminer mon apprentissage. Je venais d'être diplômée depuis peu. Donc, salariée, ma patronne décide de me prendre. Moi, je tends sa perche, je me dis, je suis installée, j'ai mes petites habitudes. Donc, je continue dans ce salon de coiffure. Je fais mon deuil, j'enterre ma maman, mais je ne prends qu'une semaine d'arrêt et je retourne au travail. Je n'ai jamais été en arrêt. Je tiens à avoir ce petit mérite parce que ma patronne était très dure à la... Mais bon, voilà, c'était une personne qui avait les moyens. Elle savait que j'avais besoin de travailler. J'y suis retournée et puis ça me faisait du bien aussi de travailler parce que j'arrive au salon, je partais du principe que les gens n'avaient pas à savoir ce qui se passait, donc je mettais mon masque, mon sourire et c'était parti. Et ça me faisait du bien.
T'arrivais vraiment à garder cette frontière privé.
Après, il y avait des clientes qui étaient attachées à moi, elles m'avaient connue apprentie, toute petite apprentie de 16 ans, elles avaient connu mon petit parcours et elles étaient émues, elles disaient « vous êtes courageuse ». Alors moi, j'avais un petit sourire, merci, mais je n'avais pas spécialement envie d'en parler. Mais ça me faisait du bien de voir du monde, m'occuper des gens. Moi, j'ai été coiffeuse parce que j'aimais ce côté contact. Voilà, contact.
C'est important pour la suite de l'histoire.
Tout à fait, voilà. Donc moi, j'adorais les relations humaines. Je suis faite pour ça, je pense que voilà. Du coup, ça faisait après, voilà, le temps est passé. Je suis restée dans ce salon de coiffure. Et bon, la patronne, je commençais à me sentir, à tourner en rond. J'avais plus d'objectifs. Je disais, là, j'ai fait le tour de salon de coiffure. Je connais la clientèle depuis des années. Ça fait 7 ans que j'y suis. Et je me revois, j'étais partie en vacances qu'avec ma sœur. On s'était fait des petites vacances toutes les deux. Elle me dit... Puis ma sœur, elle savait ce que j'avais enduré avec cette patronne. Elle me dit, non, mais c'est vrai que ça serait bien que tu quittes ce salon de coiffure. Je dis, oui, là, j'en peux plus de cette relation au commerce avec elle. Parce qu'elle nous mettait beaucoup de pression pour la vente et moi. Moi, j'aime pas arnaquer les gens. Moi, je proposais des produits avec plaisir quand les gens en avaient besoin, mais de la vente forcing, c'est pas mon truc. Voilà,
c'est pas un aspect du métier qui te plaisait.
Non, non. Ouais. Moi, j'étais là pour faire du bien. J'ai l'impression d'être une psychologue parce que c'est faut être une réalité. Hein. Des fois, on voit bien des gens qui sont pas bien dans leur peau, une rupture. On va chez le coiffeur.
Ah mais clairement, les grands événements de la vie souvent ont une échappatoire chez le coiffeur. Hein, c'est vrai.
Une
hein.
thérapie, c'est ce que je dis tout le temps. C'est une thérapie. Une femme qui change de coupe de cheveux, de couleur, il y a un renouveau.
C'est vrai, coup, c'est vrai.
C'est ce qui me plaisait dans ce domaine-là. Donc, je rentre de vacances et je vois une annonce. Une annonce, c'est alors que moi, j'avais un gros contrat pour l'époque. J'étais travailleuse quand même. J'avais un contrat à 40 heures par semaine, alors qu'en France, c'est plutôt 35 heures. Donc, je travaillais 40 heures par semaine. Donc, je ne pouvais pas perdre mon niveau salaire parce qu'en parallèle, j'avais vécu en colocation avec ma sœur. Mais... ça pouvait pas continuer. Ma sœur avait mon beau-frère à l'époque, la colocation tous les trois. Donc j'avais pris mon appartement, j'avais même acheté un petit appartement. Merci ma banquière qui m'avait dit, Sandra, honnêtement, vu votre situation, vous travaillez depuis très longtemps, vous êtes jeune, Donc elle s'appelle Marielle aussi, ma banquière, je l'adore. Elle m'a dit, Sandra, voilà, je vous conseille, vous êtes jeune, achetez un petit appartement, vous allez retomber sur vos pattes. Au moins, vous allez pouvoir avoir des petites mensualités, alors de louer un appartement, on va vous demander des garanties, un cautionnaire. Et pour moi, c'était un peu compliqué. Et du coup, grâce à elle, en fait, on m'a suivi, j'ai acheté mon petit appartement.
Oh là là, super. Et
j'avais mon petit T2, mon petit chez moi, donc installé. Donc voilà. Donc j'avais quand même une pression financière à me dire, moi, il me faut quand même un salaire, quoi.
Ouais.
40 heures. Et là, je vois une annonce. Un salon de coiffure qui recrutait, donc 40 heures semaine, dans ma commune, dans ma ville. Et je me dis, bon, bah allez, qui ne tente rien à rien, j'étais encore en vacances. Je postule. Et là, le responsable à l'époque me voit, il allait partir, ce responsable, il allait donner c'était son employé qui allait devenir responsable. Et en fait, il me dit, bah écoutez, votre profil m'intéresse, postulez. Et là, je suis recrutée, voilà, ça se passe comme ça. Donc, à son moment où le patron avait fait un gros investissement financier, c'était une chaîne assez, je vais pas citer le nom, mais une chaîne assez, assez classe, voilà, où les prestations sont assez onéreuses. Donc, je suis recrutée, donc le patron a investi beaucoup d'argent dans ce salon. Donc, on est trois coiffeuses à temps plein, une esthéticienne. Donc, le salon, je vois, je commence ma période d'essai, ravie. Ça me fait du bien, nouveau objectif, je suis célibataire à ce moment-là. Et là, donc voilà, on commence. Et je vois bien que le patron, il met une pression financière, toujours cette pression financière. Hein. Ah là. Déjà, vous avez fait combien de chiffres ? Et là, pour un salon de coiffure, il nous demandait des chiffres d'affaires, mais même nous, dans un salon de coiffure qui était implanté depuis 20 ans, qu'on ne faisait pas la journée, quoi. Et en fait, il pensait que notre commune allait attirer une clientèle assez aisée, alors que pas du tout. On n'est pas en station, là, on est dans une petite ville ouvrière. Et en fait, du jour au lendemain, je décroche le téléphone, toujours moi qui décroche le téléphone. Et là, il y a un huissier. Donc, au bout de 6 mois, ça faisait 6 mois que j'étais dans ce salon. Je décroche et il me dit « Oui, je voudrais parler à votre responsable. » Donc, je passe le téléphone à ma responsable. Et là, je vois ma responsable en pleurs qui me dit « Oh, le salon de coiffure, il ferme. » Je dis, ça, mon coiffure, il ferme. Je dis, c'est pas possible. Si, liquidation judiciaire du jour au lendemain. En fait, le salon, ils m'ont recruté, ils étaient déjà en redressement judiciaire. Donc, je sais même pas comment c'est possible. Donc, voilà comment se déroule ma vie. Là, je viens de quitter un poste où j'étais à 40 heures. J'étais contente, et là, du jour au lendemain, paf. Et en fait, la pression, je me dis, qu'est-ce que je vais faire? Et en fait, finalement, ça a été la meilleure opportunité de ma vie parce que ça m'a fait retomber un petit peu, de me dire... Ça faisait déjà quelques temps où je disais, la coiffure, c'est sympa, mais ce côté business et vente, c'est pas mon truc du tout. Qu'on me parle toute la journée de chiffre d'affaires, c'est pas moi. Et du coup, bah voilà. Alors, dans un premier temps, je pensais me dire, si je me mettais coiffeuse à domicile. Puis ma sœur est comptable. Elle me dit, non mais Sandra... T'es jeune, là, la coiffure à domicile, te mettre à ton compte, c'est pas facile, t'es toute seule. Oui, je suis toute seule, voilà. Et en fait, je me suis rendu compte, je me dis, est-ce que c'est pas le moment de faire un bilan de ta vie, te dire, t'as 25 ans, c'est peut-être le moment de changer de voie. Et le médical, moi, ça m'appelait parce que j'avais vu ma maman, j'avais déjà dit une fois, je deviendrais bien aide-soignante. Alors, tout le monde m'avait rigolé, on est aide-soignante, mais t'es coiffeuse. Je dis, si, ça me plairait, parce que je m'occupe, voilà, j'aurais une relation d'aider les autres.
Ouais, le soin à la personne, à proprement parler. Quoi.
Et clairement, je connais, parce que mon papa est placé, donc je m'occupais de lui déjà. Alors, je sais, c'est mon papa, c'est différent. Mais voilà. Et du coup, quand je vais au Pôle emploi, clairement, c'est ce qui se passe. Je vois une conseillère qui me dit, des postes. Alors, je dis, moi, je suis à 40 heures financièrement. Je suis en licenciement économique, je ne peux pas accepter non plus un poste à 20 heures. Parce qu'en coiffure, c'était la réalité il y a 10 ans en arrière. On vous proposait que des mi-temps. Je dis, oui, c'est ça. C'était aussi précaire parce qu'on nous proposait que des 20 heures semaine. Moi, j'étais à 40 heures, 20 heures semaine, je ne peux pas vivre à côté. Hein.
Donc, dans l'intervalle, tu es au chômage du coup, vu que le
donc,
salon...
Donc, je suis au chômage, mais très peu de temps. Hein, voilà.
D'accord.
Le salon, il ferme courant du février-mars. Février-mars. Alors, je ne sais pas si tu sais le lien, février-mars. Donc, moi, je vais au Pôle emploi. Elle me dit, qu'est-ce que vous voulez faire? On fait d'abord dans une étude de marché pour la coiffure à domicile. Puis, je me rends compte que non. Et puis là, je parle à une dame qui s'appelait Patricia, des cheveux très bouclés, superbes. Et je lui dis, vous allez peut-être rigoler, mais Je lui dis, écoutez, moi, j'envisage peut-être une reconversion. Elle me dit, ah bon ? Puis là, la porte se ferme pas du tout. Elle me dit, bah, écoutez, vous avez la possibilité avec le Pôle emploi de faire des journées de découverte.
Ah, elle
dit, on
génial.
Vous autorise, voilà. Je lui dis, ah bon ? Elle me dit, oui, c'est comme une petite convention de stage et puis vous allez découvrir le terrain. Elle dit, par contre, c'est à vous de trouver les stages. Je lui dis, ok. Je lui dis, parce qu'en parallèle, le médical m'appelait déjà. Je ne sais pas comment t'expliquer. On me disait déjà, je ne sais pas, j'étais attirée par le médical. Je disais, je me vois bien m'occuper des gens. Je me vois bien leur prendre soin d'eux, de leur faire leur toilette. Ça ne me posait pas de problème. Et là, je trouve un stage d'abord dans une EHPAD, clairement. Alors, moi, j'apprécie. Je ferme aucune porte. Je fais un stage en EHPAD, donc moi, hyper investie à fond. Je découvre et puis on voit déjà que j'ai une approche que je n'ai pas peur de toucher les gens, je n'ai pas peur de leur parler. Donc ça a été un point, je ne remercierai jamais. Je pense que la coiffure m'a aidée parce qu'à 16 ans, j'étais ultra timide.
Mais bien sûr.
Et j'étais le contact, voilà. Et en fait, d'avoir été face à un miroir, de devoir parler aux gens, ça m'a permis d'avoir confiance un peu plus en moi. Donc du coup, je me trouve dans ce stage et je m'épanouis, je me dis « ah ouais, j'aime bien ». Donc je suis en retrait, hein, j'ai une position un peu de stagiaire, d'observation même.
D'observation, ouais.
Voilà, de stage d'observation. Mais en fait, on voit vite qu'il y a besoin de monde. Donc on me laisse faire des tâches. Et puis bon, moi, on sent que je suis pas du tout stagiaire, c'est-à-dire que je ne dépends pas d'un IFAS, mais je suis un peu, des fois pas compétente, mais j'ai plus de facilité que certaines stagiaires qui sont en IFAS, vous voyez, tu vois.
Voilà, IFAS, donc Institut de formation en aide-soignant. Voilà, c'est ça. Non, il n'y a aucun souci, je me permets des fois de juste ordonner quelques petits mots.
Donc du coup, je fais ce stage de 15 jours en EHPAD qui se passe bien. Et en fait, on me dit, ben, il faut aussi voir ailleurs. Je trouve un stage donc là dans un petit hôpital de ma ville et je me retrouve en médecine. Okay. Et là, alors là, c'est ironique parce que bah, mon papa, on est dans une petite ville, il est placé dans une EHPAD aussi parce qu'on n'a trouvé aucune structure adaptée pour lui. Mon papa est rentré du coup en EHPAD alors qu'il avait 47 ans. Voilà, là, on avait tenu une dérogation. Et là, en fait, mon nom de famille me trahit un petit peu. J'arrive en tant que stagiaire et la cadre me prend tout de suite ma partie. On me dit, oui, bon, bah voilà, madame D. Ici, vous aurez une statue, on ne va pas parler de votre papa, parce que bon, entre-temps, mon papa, forcément, il a 47 ans, on avait eu des petites remarques, hein, on avait dit, on voyait, donc on avait eu des entretiens avec ma sœur, avec les cadres, parce qu'on sait comment ça se passe en EHPAD, hein, faut être derrière. Voilà, donc du coup, confrontation un petit peu avec la cadre en me disant, ici, Sandra, vous n'êtes pas la fille de Monsieur D, vous avez un statut stagiaire.
Oh, c'est dur, hein.
Oui, ça a été dur, hein. Mon nom de famille, je le portais là sur le dos. Et je lui dis, non, mais je vous arrête tout de suite. Hein. Je lui dis, là je ne suis pas Sandra, la fille de Monsieur D. Je suis, je viens en tant que stagiaire, j'ai tout à apprendre. Donc, vous venez comme si vous ne me connaissiez pas. Et là, je fais mes preuves. Avec l'équipe, ça se passe super bien. Je me vois avec une infirmière qui me dit, non, mais toi, ta place, elle n'est pas à faire aide-soignante, il faut que tu passes le concours infirmier. Je lui dis, non, je dis, moi, je n'ai pas du tout la prétention. J'étais coiffeuse avant. Là, je suis en observation, puis je la vois. Une grande brune, elle me dit « Non, mais toi, honnêtement, je te vois bien infirmière. Tu as les capacités. » Je dis « Oh là là. » Je dis « Non. » Et là, je reviens. Donc, ce stage se passe super, super bien. La cadre me propose même un job d'été en tant que faisant fonction de... Voilà. Comme quoi,
Le fameux rôle du faisant fonction.
Voilà.
Ah, ça.
Dans ma famille, autour de moi, à part ma sœur qui m'a beaucoup soutenue, je leur dis « Bon, bah voilà, je crois que je vais tenter le concours aide-soignant. » Alors là, dans certains membres de ma famille m'ont dit « Non, mais tu déconnes, tu sais ce que c'est ce métier. » on a les aides-soignantes, on a une réputation un petit peu de péjorative. Je disais « Tu vas te torcher Je dis « Mais moi, je vous arrête tout de suite. C'est pas ce que j'ai vu dans la profession. Tout le monde, je vous écouterai pas. Je fais ce que j'ai envie de faire. »
Et là, ma sœur, je crois qu'on l'a tous entendu, ça.
Tout à fait.
C'est navrant. Hein.
Et par contre, j'ai ma sœur qui me disait bah, « Écoute, si tu veux faire ça, vas-y, c'est le moment parce que tu es en licenciement économique, tu n'auras pas d'autres opportunités. » Et voilà, dans ma situation. Je passe le concours. Donc, j'avais 3 instituts de formation autour de chez moi. Je passe les 3 concours parce que j'avais un bac, donc j'avais qu'une lettre à faire et un oral. Pour rentrer en formation.
Ah oui. T'as pas de valorisation des acquis ou autre.
Voilà, Non, vu que j'ai un bac, j'ai pu passer, j'ai le niveau bac, j'ai pu passer directement par la case concours. Mm-hmm. Et Et en fait, je passe mes concours et j'ai les trois concours sur liste principale.
Oh là là,
je suis archi comme ça. Et plutôt fière de moi, je me dis, bon, bah, allez, entre-temps, je rencontre quelqu'un, donc voilà, ça se passe bien. Du coup, je laisse mon appartement, je vis avec lui et je m'investis à fond dans cette formation. Vraiment, je me retrouve, je me revois, voilà, de me dire, mais la vie, comment j'ai pu me retrouver être soignante, quoi.
Des fois, mais tu te sens à ta place.
Je me sens à ma place. J'arrive dans cette formation. Donc moi, j'ai 25 ans, mais il y a des personnes qui ont 50 ans. La plus jeune avait 18 ans, le plus âgé, je crois qu'il avait 50 ans, c'était un garçon. Donc pareil, qui était carreleur, rien à voir.
Ouais, tu vois, dans les questions que je reçois beaucoup, c'est des personnes qui ont 40-50 ans et qui se disent, est-ce que je vais me retrouver à l'IFAS à côté, ou à l'IFSI, si c'est pour les soins infirmiers, à côté d'étudiants de 18-19 ans. Et non, des gens en reconversion, il y en a des tas.
Alors aussi bien en formation d'aide-soignante, mais en formation d'infirmière, c'est très...
C'est pareil.
Pareil, en fait. Je pense que, moi je dis toujours, non mais moi, à 16 ans, on m'aurait dit, tu vas être aide-soignante dans le médical, j'avais personne autour de moi, je connaissais pas ce métier. Non, je n'aurais pas choisi la filière médicale parce que on est trop jeune, c'est pas facile de dire à 16 ans qu'est-ce que je vais faire. Voilà, moi je fonctionnais plutôt côté passion. Je suis allée à fond dans ma passion, je suis allée au bout des choses en coiffure, c'est-à-dire que je suis allée, j'ai aucun regret, j'ai eu mes deux diplômes à e-facilité, j'ai exercé, je me suis épanouie. J'ai fermé cette boucle, on va dire.
C'est ça.
Et j'ai fermé la boucle, j'ai aucun regret. Et en fait, quand je suis arrivée dans cette formation, où, en plus, il y avait une autre coiffeuse, c'était ironique, qui était plus âgée que moi. Après, je pense sincèrement qu'on n'arrive pas dans le médical pour rien. Je pense sincèrement qu'on est... Bah, moi, je dis clairement que j'ai été appelée. Je pense que si on n'aime pas les gens, qu'on n'aime pas le contact, on n'aime pas les relations humaines, il ne faut pas s'orienter dans le médical. Clairement.
Ouais, je suis tout à fait d'accord.
Et on avait tous... En plus, on était vraiment une bonne promo. On communiquait beaucoup. Les plus âgés donnaient des conseils aux plus jeunes. Les plus jeunes nous apportaient aussi le côté spontané qu'on n'avait pas parce que nous, on était très terre à terre. On disait, nous, c'est important notre diplôme. Hein. On révisait plus que les petits jeunes de 18 ans.
On ne vit pas la formation de la même façon selon la génération.
On avait une pression autre. Je pense qu'on voulait. On n'avait pas droit à l'échec.
Bien sûr.
Pour moi, en tout cas, j'ai ressenti que j'avais pas droit à l'échec. Mais cette année, elle a été intense. Elle m'a beaucoup apporté, vraiment humainement, parce qu'en plus, on a ce statut stagiaire. Il faut profiter de ce statut stagiaire, d'avoir qu'un à deux patients à charge et de pouvoir profiter.
Très, très bien faire les choses, prendre son temps.
De faire ses démarches de soins.
On n'a pas parlé de l'aspect financier, mais du coup, cette formation, tu parviens à te la faire financer. Comment ça se déroule?
Du coup, moi, je suis en licenciement économique.
Ouais.
Donc, du coup, voilà. J'étais suivie par une Patricia qui me dit, écoutez Sandra, vous êtes en licenciement économique, la formation, si vous avez votre concours, elle va être, parce qu'il faut savoir que quand on rentre dans cet institut de formation, effectivement il y a 3000 euros d'inscription, frais d'inscription, on n'est plus dans le statut étudiant.
Exactement.
C'est pas pris en charge par le conseil général. Après, en dessous de 25 ans, il me semble qu'il y a la mission locale jeune qui prend en charge, hein, parce que j'avais des petites jeunes, c'était pris en charge par la mission locale jeune. Donc il faut se renseigner. Mais moi, effectivement, j'ai été prise, ma formation a été rémunérée par le Pôle emploi. Une fois que j'ai obtenu le concours, en fait, eux, ils aiment bien parce que ça veut dire qu'on sort du chômage. Et je suis restée que deux mois au chômage. Hein, et puis, en parallèle, j'ai fait des observations. Donc, on sort de ce... Pour eux, ils estiment qu'on n'est plus au chômage.
Bien sûr.
On prend une formation, en plus, qui est attrayante parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de travail. Ils savent que derrière, on ne sera plus jamais au chômage. Clairement, quand on rentre.
C'est certain. Hein. Ouais,
si on veut du travail, moi je dis toujours, faut arrêter. Si on veut travailler en France, on peut le faire. Clairement, voilà, c'est mon point de vue. Moi, je toque à une porte, j'ai du travail. Voilà, c'est la réalité. Après, c'est important de se sentir bien au travail, donc de choisir aussi le service, parce qu'on n'est pas tous faits pour travailler au même endroit. Clairement.
Non, c'est certain. C'est certain.
Donc moi, j'ai été financée, donc j'ai eu cette pression financière qui est un peu retombée. Parce que moi, j'ai été financée par le Pôle emploi. Et à côté, j'avais une petite rémunération qui n'était pas à la hauteur de mon salaire. On perd un niveau salaire, voilà. Mais j'avais quand même une entrée d'argent qui était à la hauteur d'un petit SMIC. Mais au moins, ça me permettait de vivre cette année de formation à fond.
Sereinement.
Sereinement. Et ça, c'est important. Voilà.
Donc, tu pars sur un an de formation.
Oui.
Avec une alternance, stage et cours, du coup. De la théorie à l'école, et puis les stages sur le terrain.
Tout à fait. Donc moi, en plus, mon école est à 45 minutes de chez moi, donc je fais les allers-retours les jours, voilà, quand je suis en module. Et les stages, pareil, parce que moi, je n'ai choisi pas, je n'ai pas choisi la facilité. Vu j'avais ce nom de famille un peu à portée, j'ai dit, moi, je ne veux pas qu'on me connaisse. Je veux qu'on me juge en tant que Sandra, pas en tant que l'histoire de famille, voilà. Donc, j'ai décidé d'aller faire tous mes stages, donc à 45 minutes de chez moi minimum.
D'accord.
Donc, voilà, je n'ai pas pris la facilité, je l'accorde, mais
clairement, ouais, ouais.
C'est le plus... je n'ai aucun regret, aucun regret.
Ah, mais c'est tout à ton honneur de vouloir t'anonymiser et puis de vivre un parcours de formation serein. Très bien.
Et du coup, je me revois, on attaque vite les stages. Hein. C'est ce qui est agréable pour moi. Et en plus, honnêtement, quand tu as travaillé pendant une dizaine d'années et que tu dois retourner sur les bancs de l'école, faut reprendre le rythme. J'adore apprendre, hein. Ça a été facile, mais d'être assise. Je sais pas, d'être assise derrière un bureau au bureau, c'était plus difficile pour moi que d'être en mouvement.
Donc, je suis tout à fait d'accord.
Les stages, pour moi, c'était ma petite bouffée. C'est-à-dire que, alors, c'est pas évident parce qu'on avait de nombreux stages et puis, on arrive, on a le statut stagiaire, faut se faire à l'équipe, on n'est pas leurs collègues. Et ça, c'est ce que je disais, j'ai toujours tenu ma place de stagiaire, je pense. C'est-à-dire que moi, j'étais stagiaire, j'ai essayé de faire le maximum. Et il y a 10 ans derrière, je pense qu'on n'était pas les stagiaires d'aujourd'hui. Hein. C'est pour le reconnaître. Hein. C'est notre génération. Moi, j'étais hyper investie. Et ça, c'est, je pense, toujours ressenti parce que mon premier stage, je l'ai fait en EHPAD. Pareil, vite pris en charge les patients. Ça ne me déplaisait pas. Sauf qu'après, j'ai fait un deuxième stage. Et là, ça a été une révélation pour moi. J'ai fait un stage en cancérologie. Je l'avais demandé, et là, j'ai fait un stage en oncologie et en hématologie. C'est mon service coup de cœur. Je pense que j'y retournerai un jour, parce qu'humainement, j'ai beaucoup appris sur moi, sur ma pratique. Parce que moi, j'ai une histoire de vie pas facile, hein, mais il y a des histoires de vie qui sont autres encore. Et des fois, je me dis, moi, t'as pas le droit de te plaindre, t'as la santé. Là, j'ai 32 ans, je suis en pleine forme. On ne m'annonce pas pour l'instant une leucémie foudroyante où je dois être en chambre stérile. Voilà.
Clairement. Je renvoie les auditeurs vers l'épisode 20. J'avais reçu Lucie, infirmière en hématologie. C'est un épisode qui est passionnant. Si vous voulez en savoir plus sur ces services.
Vraiment, c'est vraiment un service qui est dur, qui n'est pas adapté pour tout le monde. Parce que là, je suis en réanimation, mais j'ai fait, je pense, plus de décès difficiles en oncologie, en hématologie, parce que on les accompagne. C'est des personnes qui viennent pour leur cure de chimiothérapie, parce que des fois, elles ont 3 jours de cure de chimiothérapie. Donc, on les voit, elles sont là. Puis, il y en a certaines, heureusement, il y a des personnes qui guérissent. Hein. Mmh. Et il y a d'autres, au contraire, on les accompagne dans des soins de palliatifs et on fait leur toilette mortuaire à la fin, pour reconnaître. Mmh. Et ça, humainement, ça m'a beaucoup coûté aussi, parce que même si on prend du recul, il y a des moments où on rentre chez soi, on se dit « Waouh, il m'est arrivé ça aujourd'hui », parce qu'on avait des jeunes aussi, ça nous arrivait d'avoir des très jeunes. Je me revois, maintenant j'ai 32 ans, mais j'avais accompagné en fin de vie une maman qui avait 32 ans, cancer du sein, et ça allait très très vite. Et je me suis pris beaucoup de claques en me disant, alors je pense qu'il y avait mon histoire avec ma maman.
C'est ce que j'allais dire, il y avait aussi tout ce chemin parcouru de ton côté, t'as réussi à pas te projeter à travers les histoires de tes patients, ce qui est quelque chose de très facile à dire mais difficile à mettre en place.
Je pense que des fois il y a des moments où on se projette, mais tout de suite on reprend une statue professionnelle en disant c'est pas nous là, c'est pas notre histoire, on est là, on est soignant, on a une position soignant, on est là pour accompagner les patients mais aussi la famille. Parce qu'on pense toujours aux patients, mais en fait c'est un véritable accompagnement et ça je pense que c'est ma vie personnelle qui le fait, parce que je dis oui, il y a le patient mais il y a aussi tous les à côté. Et bien un sûr. Patient à côté, il a toujours des piliers, on va dire. Mmh. Et que c'est un équilibre. Hein, voilà. Et je pense que moi, j'essaye dans ma profession de toujours faire attention aux patients, d'être disponible, mais aussi vis-à-vis des familles, d'avoir un... Alors, c'est pas grand-chose, mais j'essaie, par exemple, l'après-midi, c'était un peu plus calme. L'après-midi, j'essaie toujours d'apporter des petites collations, de dire, des petites choses comme ça. Alors, c'est pas grand-chose, mais ça fait tellement du bien... Des fois, je dis toujours, il faut mieux une petite attention que des longs discours.
Parce que des fois,
on ne sait pas quoi dire. Il n'y a pas de mots. Donc, moi, des fois, je mets juste ma main sur...
Un geste.
Ouais. Voilà. Ouais. Des fois, et puis même moi, en fait, je me dis, des fois, je n'ai pas les mots, clairement. Mm. Je suis juste là à les écouter. Et, voilà.
La communication, ce n'est pas que des mots. C'est un geste, un regard un peu plus appuyé. S'asseoir sur le bord d'un lit au lieu de parler dans l'encadrement de la porte. Comment est-ce que tu résumerais ton ton rôle en tant qu'aide-soignante. On en a déjà parlé dans l'épisode 14, j'avais reçu Mélanie qui était... qui est toujours aide-soignante en réanimation.
Ouais.
Comment, alors, on peut déjà reparler aussi de tout l'éventail des soins que vous faites au quotidien, mais comment est-ce que tu résumerais, et pas forcément au service de cancérologie, mais comment est-ce que tu résumerais ton travail à quelqu'un qui n'a jamais entendu parler de ce métier ? Ce qui m'étonnerait, mais...
Alors, moi, effectivement, alors, je vais être honnête avec toi, je vais dire, c'est quand même... Ma profession aujourd'hui d'aide-soignante en réanimation n'est pas du tout la même que ma profession d'aide-soignante en oncohématologie. Je pense qu'il y a une formation qui manque entre les deux.
C'est vrai.
Il y a une passerelle. C'est pas le même métier. Alors, il y a toujours cet accompagnement, ces soins d'hygiène qui sont hyper importants. Voilà, on est là pour apporter du confort physique et psychologique. On fait les soins d'hygiène. Mais c'est pas que ça. Ça se résume pas que ça. Et effectivement, c'est pour ça qu'on va rebondir, mais je suis devenue aide-soignante parce que j'aimais, donc on fait des shampoings, on fait des douches. Alors moi, là, je pense que pour le shampoing, je suis la reine.
J'étais clairement.
Là, donc je le faisais déjà. Alors moi, je faisais déjà des brushings aux patientes quand j'étais en cancéro. Elles appréciaient beaucoup et je faisais du bien. J'ai déjà eu couper des cheveux aussi à la demande de médecins.
Dur de faire venir les coiffeurs à l'hôpital.
Alors moi, je me souviens quand j'étais en onco-hématologie, on m'avait dit j'avais une patiente qui était terrifiée de perdre ses cheveux. Alors, c'est pas en systématique. On a l'image des patients qui sont atteints d'un cancer où ils perdent systématiquement leurs cheveux. C'est pas du tout... c'est pas en systématique. C'est vraiment... En général, c'est plus en hématologie, effectivement, des grosses leucémies, des lymphomes, des choses comme ça. Mais c'est vrai que avant que maman ait un cancer, j'avais l'image de la cancérologie où tout le monde perdait ses cheveux. Voilà. Alors, ce n'est pas le cas du tout. Donc, du coup, j'ai aidé aussi les gens. Je leur disais, quand j'avais le temps, parce que j'avais quand même 14 patients en charge... Le matin, 14 toilettes, des patients 14. Assez lourds. Et oui, hein, voilà. 14 patients en charge. Donc, je suis salariée. Donc, je suis toujours à 45 minutes de route. Des horaires en 7 heures. Donc, je fais des fois 4 matins, un repos, 5 soirs. Voilà.
Alors, du coup, parlons-en. Ta formation à l'IFAS se termine et tu atterris tout de suite en service de réanimation derrière. C'est un choix de ta part ?
Ah non. Alors, moi, ma formation se termine. J'ai sauté les étapes. Ma formation se termine. J'arrive à... j'ai fait mon stage en cancérologie en deuxième stage. Okay. L'équipe m'adore, sans prétention, l'équipe, je matche vraiment avec l'équipe de cancérologie, avec la cadre. La cadre me dit, écoutez Sandra, à la fin de votre formation, en juillet, j'aimerais que vous intégriez notre service. Moi, je suis super enchantée.
Super valorisant.
Donc du coup, je fais mon stage, après je fais un stage encore en viscéral, un stage en nécessaire, et puis en fait, j'adore tous mes stages, honnêtement. Il y a juste un stage optionnel que j'ai fait du coup dans ma commune, j'ai moins aimé, c'était de l'orthopédie. Honnêtement, c'est moi mon coup de cœur. L'orthopédie, je me suis dit non, c'est pas pour moi. L'orthopédie, D'ailleurs, je le dis encore aujourd'hui, non, l'orthopédie, c'est pas mon truc.
Moi, je trouve ça très bien de ne pas aimer certains stages parce que comme ça, on sait vers où on va.
Tout à fait.
Il vaut mieux avoir un avis tranché, quoi.
J'ai adoré mes stages, mais en même temps, j'ai fait beaucoup de stages. J'ai fait de la cancérologie, soins palliatifs. Voilà, j'ai été un petit peu... voilà. Du coup, je suis recrutée directement. J'ai la chance. Je sais qu'en fait, au mois de mai, je sais déjà que si j'obtiens mon diplôme... Bon, j'avais des bonnes notes, logiquement. Je savais que j'allais obtenir mon diplôme. Dès le 7 juillet, j'étais dans le service de cancérologie.
Génial.
Du coup, j'avais déjà, il faut le savoir, il ne faut pas avoir peur, il y a du travail. Si les stages se passent bien, les cadres prennent vos coordonnées et puis ils appuient auprès de la direction pour avoir un poste.
C'est vrai, ils ont tout intérêt à recruter un élément qu'ils ont apprécié en stage, ils t'ont vu travailler, ils savent comment tu fonctionnes.
Et les équipes, même j'avais des infirmiers, alors on a des tuteurs à la base, tuteurs qui signent nos appréciations, nos cadres, et j'avais même des infirmiers qui avaient appuyé mon dossier en mettant des appréciations. J'avais été très très touchée, d'ailleurs un infirmier qui s'appelait Thierry en cancérologie, que j'ai pas revu mais que j'ai adoré. Voilà, donc du coup ça s'est déroulé comme ça. Donc en juillet, je suis arrivée jeune diplômée en cancérologie. Et en plus, je suis arrivée en même temps que mon petit bénôme qui est avec moi en formation dans ma classe, on va dire.
Génial.
Juliette. Et en fait, on est arrivées toutes les deux jeunes diplômées. Elle est arrivée 2 semaines après moi, mais du coup, on était notre petit binôme. Du coup, l'intégration avec l'équipe, super. Mais on était sur des remplacements congés maternité. Ça se passe comme ça, en fait, dans la fonction publique. On n'a pas un poste directement. On fait soit des remplacements. Il faut qu'il y ait des postes qui se libèrent. Et en fait, voilà comment je suis arrivée amenée en réanimation, rien à voir. Arrive un moment où les congés maternité reviennent, prennent leur poste. Sauf que, on match toutes les deux avec Juliette dans ce service. Et la CAD veut nous garder toutes les deux. Donc, elle nous propose de faire un 50% dans le service de cancérologie et un 50% à l'hôpital de jour. Donc, en cancérologie. Moi, je lui dis, non, les horaires de jour, moi, en travaillant à 45 minutes de chez moi, c'est pas possible.
Avec les bouchons et tout.
8h, 17h, c'est où j'ai les bouchons. Donc moi je dis à ma 4 sup, je suis désolée, non moi les horaires comme ça c'est juste pas possible, en fait je vais perdre plus de temps sur la route. Elle me dit, est-ce que ça vous plairait d'être dans le pool de remplacement? Le pool de remplacement, donc elle me dit deux cancérologies, donc ça regroupe l'onco-hématologie, l'hôpital de jour onco, donc pneumologie, gastro, il y avait aussi à l'époque le SSR, tout ce qui était rattaché à l'hôpital, vous allez à domicile. Donc ça, j'avais dit pas pour le domicile parce que je connais pas bien la ville.
Ouais, c'est particulier.
Du coup, je suis partie. Donc ma copine, elle est partie. Donc elle faisait 50% donc au hémato, 50% à l'hôpital de jour. Ça lui allait bien. En plus, elle allait tomber enceinte. C'était parfait pour elle. Elle habitait à côté.
Impeccable.
Et c'était moins physique. Clairement, quand on est enceinte, l'hôpital de jour, c'est plus de l'accueil. Distribution des repas, des prises de constantes, voilà, c'était plus cool. Et moi, j'arrive dans le pool, donc je me dis nouveau challenge. J'intègre, et puis en fait, j'ai découvert le pool de remplacement et j'ai adoré. J'ai adoré finalement découvrir d'autres spécialités. T'es toujours bien accueilli dans les services parce que t'arrives, t'es un renfort. Tu remplaces une collègue qui est en arrêt maladie, donc, et ça m'a dégourdi parce que moi, j'étais jeune diplômée, j'ai appris plein de choses. Et après, il y avait un poste qui se libère en oncologie. On me dit, est-ce que tu veux ? J'ai dit,
je reste.
50%, c'est super. J'ai toujours ma petite équipe d'oncologie et hématologie.
C'est ça.
Je suis hyper soudée, j'ai mes copines. Mais en même temps, je suis détachée un petit peu. J'ai moins le côté un petit peu contrariant des plannings qui ne vont pas. Parce que moi, j'aime pas rentrer dans... Bon, je pense que mon trait de caractère, j'aime pas les conflits, je suis balance. J'essaye tout le temps d'équilibrer.
J'adore, j'aime pas les conflits, je suis balance.
Non, mais c'est ça. D'ailleurs, c'est un peu un trait de caractère de chez moi, c'est que j'essaye jamais de rentrer dans un clan. J'aime pas les critiques gratuites, j'aime pas les conflits, clairement.
Donc le pool peut te convenir, qui est un service à la fois qui, pour certaines personnes, peut être mal vécu, parce qu'on a l'impression... Alors, toi, t'avais ce mi-temps, du coup, qui te permettait de garder un pied dans une équipe, mais voilà, pour expliquer le pool de remplacement, donc en fonction des besoins, on est appelé telle ou telle journée pour aller remplacer telle ou telle personne. Oui. Mais on peut avoir... on peut ne pas avoir ce sentiment d'appartenir à une équipe et d'être toujours un peu... de papillonner un peu de service en service, de pas pouvoir s'investir comme on le souhaite. Mais toi, du coup, c'est quelque chose qui te convient.
Ah, j'adore. Vraiment, je suis restée un an et demi dans ce pool moitié-moitié.
Ah ouais ?
Et même mon conjoint, il me dit « Ah ouais ». J'ai vraiment apprécié. En plus, j'avais beaucoup d'horaires de matin, parce que vu qu'on est un pool de remplacement, c'est surtout le matin qu'on a besoin, donc moi, parfait. J'avais mes après-midi. En parallèle, je suis toujours fifi, donc je vais au sport. J'ai pas d'enfant, j'ai pas de contraintes, donc je vais au sport. J'ouvre même une chaîne YouTube, tu le savais pas. J'ouvre une petite chaîne YouTube et je fais des petits tutos coiffure parce que j'ai toujours un pied dans la coiffure. Moi, j'adore. J'ai pas arrêté la coiffure parce que je déteste la coiffure. C'est parce que j'aimais pas ce côté commerce, voilà. Donc je fais, j'ai du temps pour moi, je m'éclate. Et j'ai ma petite routine. Et en fait, ma copine Juliette, qui est toujours en oncologie, me dit, on en reparle de nos stages. Elle avait fait un stage en réanimation. Et puis en fait, on voit une vacance de poste, toutes les deux. Parce qu'on regarde, on est curieuse, on regarde quand même les vacances de poste. C'est un petit peu on sait un peu ce qui se passe sur l'hôpital. Et puis elle me dit, oh là là, toi, je te vois vraiment en réanimation. Parce qu'en parallèle, j'adore mon métier d'aide-soignante, mais ça m'appelle aussi de devenir infirmière. Je suis attirée. Mes collègues infirmières, elles me disent « Non, mais toi... » Parce que nous, dans l'hôpital où je travaille, on fait beaucoup les déplacements de tâches, comme tu m'as parlé. Clairement, les constantes, c'est nous qui les prenons constamment. Nous, à l'époque, quand j'étais en cancérologie, on prenait toutes les constantes. Les glycémies, voilà. Alors, c'était à la base la rôle de... Nous, on a ce rôle-là. Hein. Les infirmières, elles ont 14 patients. Donc, du coup, on leur mâche un peu le travail. On prend toutes les constantes, les diurèses. Donc c'est des urines.
Expliquer, voilà, on donne de plus en plus de tâches aux infirmiers. Donc les infirmiers ont de moins en moins de temps pour les exécuter. Voilà. Et du coup, y a du glissement de tâches. Et les aides-soignants se retrouvent, et puis ça fonctionne dans d'autres domaines, avec de plus en plus de tâches qui dépassent de leur domaine de compétences et de leur décret de compétences aussi. Donc voilà, comme tu disais, faire des glycémies, donc faire la petite piqûre au bout du doigt. Normalement, c'est un acte que vous n'avez pas le droit de faire, mais on sait très bien que la réalité des choses, c'est que ça se fait,
tout à fait.
De partout, quoi.
Ça dépend vraiment. En fait, vraiment, il y a un dissentage. Et puis, les infirmières, elles se reposent sur nous aussi, même pour les pansements.
Bien sûr.
Pour plein de choses. Puis après, on a aussi de l'œil, on sait repérer les escarres, on connaît. C'est vrai qu'on est vraiment un binôme. Mais surtout dans ces services, il y a 14 patients où finalement, l'infirmière, elle gère beaucoup aussi le côté administratif.
Les sorties,
les chimiothérapies. Donc nous, finalement, comme on est au plus près des patients, même pour les pansements. Alors, je parlais en service, c'est-à-dire qu'en cancérologie, c'est plutôt les pansements type escarre, c'était nous en tant qu'aide-soignante, on gérait ces pansements.
Ah, clairement. Ouais.
Les infirmières, elles faisaient plutôt les pansements stériles quand il y avait les échanges de chambres implantables, de l'aiguille,
ouais.
Voilà, c'était plutôt elles. Mais tout ce qui était pansement d'escarre, pansement de plaie simple, c'était les aides-soignantes. Donc du coup, les infirmières, elles disaient non, mais toi, tu as largement les capacités. Et puis, on voit cette vacance de poste, Juliette me dit ah, mais toi, je te vois vraiment. Tu vois trop aller en réanimation. Oh, je dis, ah, tu crois? Parce que la réanimation, surtout dans notre... À l'époque, il y a 10 ans en arrière, on appelait ça un petit peu le nid de vipère. Un petit peu... C'était un milieu très fermé, beaucoup d'anciennes. Ça n'avait pas bonne réputation. C'était un milieu très dur. On disait c'est
un
très,
peu effrayant
très
aussi.
Un peu effrayant, voilà, c'est d'autres tâches. Mm-hmm. Voilà, ça n'avait pas une bonne réputation. Non. Je vois cette vacance de poste et puis je vois ma cadre. Ma cadre qui m'appréciait et qui, je lui dis, ah ben je pense que, je lui dis, madame N, vous croyez que c'est possible de faire une journée découverte? Avant de postuler, j'aimerais faire une journée découverte. J'ai fait cette fameuse journée découverte et là je vois la cadre de service, je ne suis pas accueillie par la cadre de service à l'époque, madame D, là je me souviens, un peu fofolle, voilà. Je fais ma journée découverte avec des collègues que j'adore aujourd'hui qui sont encore en animation. Et là je découvre un autre monde. Je vois les aides-soignants.
Et qu'est-ce qui te plaît alors?
Ah, mais ce côté, moi j'aime bien aussi apprendre, et là c'est un autre métier que je découvre. Je vois les aides-soignants qui servent les médecins stériles, qui en fait sont là, c'est eux qui servent carrément les médecins. Il y a des pauses de voix, ce qu'on appelle pour tout ce que. Nous en réanimation, c'est beaucoup des VVC, hein, des voies veineuses centrales qui sont posées, on n'a pas des petits cathés périphériques, parce qu'il y a souvent.
Sur les bras, sur les mains,
voilà, des drogues qui sont administrées, donc on passe surtout par la voie, donc c'est les aides-soignants qui font ça. Dès qu'il y a des urgences, les aides-soignants, en fait, ils sont partout. Ils sont un binôme et ton infirmière, elle se repose vraiment. Oh, je passe cette journée découverte en même temps mitigée, me dire ouais, est-ce que je vais être capable? Est-ce que je vais. Je sais qu'on est une réanimation polyvalente et c'est pas dans toutes les réanimations pareil. Hein, parce qu'on a des échos là maintenant avec le Covid, on s'est un peu concerté tous les uns et les autres.
Bien sûr. Ouais.
Et en fait, nous, dans notre réa, clairement, les aides-soignantes, on fait beaucoup de choses. Sans prétention, mais c'est clair et net. Et je reviens de cette journée découverte et je me dis waouh, j'ai fait plein de choses. Je dis allez, je postule. Je postule, donc je donne ma lettre de motivation à ma cadre et qui me dit « J'en étais sûre que vous alliez postuler. » Je dis « Ah bon ?» Elle me dit « Oui, oui. » Je postule, j'ai un entretien avec la cadre de réanimation et le cadre supérieur. Puis on est au moins 40 sur ce poste. C'est un poste qui est en 12 heures. Donc moi qui habite loin, c'est le top. Donc alterne jour-nuit, moins de trajet et qui est enrichissant, quoi. J'ai 27 ans, c'est enrichissant, quoi. C'est waouh, ça me porte. Je dis allez, puis je suis avec mon mari. Hein. À ce moment-là, je suis avec mon mari. Il me dit bah écoute, vas-y, qui ne tente rien à rien. Je postule, je me vois comme je te parle. Je lui dis bah écoutez, j'ai le projet de devenir infirmière. La réanimation, je pense que c'est aussi un bel endroit pour apprendre plein de choses, pour évoluer, pour sortir de sa zone de confort. Elle me dit « Oui, mais là, je ne cherche pas une infirmière, je cherche une aide-soignante. Si je vous prends et que vous voulez devenir infirmière dans 2 ans, ça ne m'intéresse pas. » Elle m'avait dit ça, je dis « Non, pas du tout. » Un entretien, la cadre, elle était très tac au tac, mais il faut. Hein.
Ah, dis donc.
C'est une cadre de service, elle tient un service où il y a 100 personnes.
Et
il faut des fortes personnalités pour être en réanimation. Et même en réanimation, quand on regarde le panel, je pense que tu l'as vécu, on a quand même des caractères, il y a du caractère quand même.
Ouais,
c'est des services de caractère, on n'est pas au pays des bisounours.
Non, c'est vrai.
Donc du coup, je lui dis, bah, écoutez, elle me dit, parce que quand je vois votre CV, quand même, vous étiez coiffeuse avant, ça n'a rien à voir. Et là, je la regarde, je lui dis, je ne suis pas d'accord avec vous. Je lui dis, bah, écoutez, non, je dis, je suis toujours en coiffure, je prenais soin des gens. Il y avait un contact physique. Et je parlais, il y avait de la communication. Donc, moi, je trouve pas qu'il y a un fossé. Je trouve que tout est en lien. Donc, je pars de mon entretien. Donc, le cadre sup très posé. Voilà. Je me dis, j'ai pas eu du tout le poste. Elle a fait que me casser. Je reviens, je vois mon mari, je lui dis non, mais je n'ai pas le poste. Je lui dis. Et là, 3 jours après, ma cadre, donc Emato, me convoque dans le bureau. Elle me dit Sandra, il faut que je vous parle. Mais avec un petit, les petits yeux qui brillent, un petit sourire. Elle me dit j'ai le grand regret, à mon grand regret de vous dire que vous êtes prise en réanimation. Et là, je tombe, je dis « Non, mais c'est pas possible, comment ça ? C'est vrai, j'ai le poste, moi je suis jeune diplômée, hein. J'ai que 2 ans d'expérience, même pas. »
Ouais, ouais, ouais.
J'avais pas du tout la prétention, je me suis dit « Je vais mettre un pied dans l'engrenage, je vais être dans une liste d'attente, il y a 40 personnes devant moi, je vais pas être prise. » Et en fait, je pense qu'il faut vraiment tout tenter dans la vie. Pendant un mois, je reste dans mon service, et là, j'arrive 1er avril 2016 en réanimation. C'est pas un poisson d'avril, j'ai dû me préciser. Et là, j'arrive. Toute petite. En fait, il faut savoir qu'il y a 2 secteurs en réanimation. Il y a le Réa Nord, Réa Sud, ce qu'on appelle. Et là, je vois une fourmilière. On n'est plus 2 petites aides-soignantes dans l'unité et 4 infirmières. Là, je me retrouve à 8 infirmiers d'un côté, 2-3 aides-soignantes d'un côté. On est au moins 6 la journée. Alors, au début, je prends peur. Je me dis, alors, les transmissions, d'habitude, j'ai l'habitude de prendre des transmissions avec, entre infirmiers. Mais là, les aides-soignantes sont tellement compétentes qu'on se fait des transmissions entre nous. On a petites fiches et en fait, on va faire comme une infirmière, on va se passer des transmissions, mais à détail, détaillé, c'est-à-dire on sait le motif d'entrée, le combien de jours, pour quel, voilà, depuis combien de jours ils sont là, de quel équipement ils ont, s'ils ont des amines, tout. Alors s'ils sont sédatés, s'ils sont intubés, s'ils ont juste besoin d'O2 en air ambiant, en général ils ne sont pas là avec de l'air ambiant, voilà, on est d'accord.
Mais en fait, l'état de la peau, tout en détail.
S'ils ont des drains thoraciques, tous les équipements, les sondes urinaires, tout. Et moi, j'arrive, je me dis, mais qu'est-ce que je fais là? Moi, je suis une petite soignante. Et au début, je me dis, je ne fais jamais. Puis en fait, on a beaucoup de protocoles. Faut savoir, dans des services comme ça, tout est protocolisé. En plus, beaucoup d'anciennes aides-soignantes. Moi, à l'époque, on était nouvelles pendant 1 an. Vous appelez la nouvelle aide-soignante. Qu'en fait, dans cette réanimation, on fait de la réanimation et du déchocage. Donc, avant de faire du déchocage, parce que l'aide-soignante est au déchocage, on doit avoir au moins 1 an et demi de réa. Ce qui est normal.
Oui, ce qui se comprend.
Faut déjà comprendre un scope, ce que c'est des constantes, les normes. Ça, on doit le savoir, ce qui est une norme. Si un patient il a 85% d'oxygène, il faut savoir alerter sa collègue. C'est la première chose qu'on dit. Alors on me disait, quand tu vois un scope, si tu vois des alarmes rouges, tu regardes tout le temps ton scope. Et ça, on n'a pas en service. Au début, on n'a pas ce regard sur ce scope. Et maintenant, on ne vit pas sans scope. On est perdu sans scope.
Le scope, il sonne pour 1000 raisons. Il sonne pour des problèmes. Il sonne parce qu'il y a une électrode qui est débranchée. Sonne parce que la pince pour la saturation d'oxygène, elle est un peu au bout du doigt.
Et puis, il y a les autres chambres. Parce qu'en fait, tu as tes patients, mais on te dit toujours... Tu t'occupes de tes patients, mais tu t'occupes aussi des autres patients parce qu'on n'est pas à l'abri de... voilà. Donc, tu as plein de choses. Moi, je rentrais de ma journée de travail, je me disais, mais je ne vais jamais réussir, c'est compliqué pour moi. J'avais beaucoup une pression, je me mettais naturellement la pression, alors que je vois les nouveaux arrivants à l'heure actuelle en 2022, ils n'ont pas du tout la même pression. J'ai l'impression, je pense que le Covid a lissé un petit peu tout ça, dit qu'avant, quand on arrive en réanimation, tu mettais une compresse parce qu'en fait, pareil, on reconditionne des chambres. C'est checké, chaque chambre, chaque chose va à sa place, et en fait c'est hyper rassurant. Bon, maintenant, ça fait 7 ans que je suis en réanimation, c'est rassurant, c'est-à-dire en cas d'urgence, tu sais où sont les choses. Et c'est ce qui fait que ça tourne et que tu sauves aussi des gens, parce que tu as une dynamique, tu sais où sont... Donc ça s'apprend, c'est pas inné.
Il n'y a pas de place pour l'imprévu, pour ce genre de choses, on est obligé de mettre en place plein de trucs pour que ça soit... bien confortable.
C'est protocolisé. Quoi. Moi, je dis, j'ai jamais vu un service avec autant de protocoles. Pour tout, tu as des protocoles. Ouais. Et du coup, au début, je disais, mais je vais jamais réussir à tout faire. Honnêtement, puis même, je sais pas ton sentiment, mais au début, c'est une grosse équipe. On est en 12 heures. On se voit moins souvent pour créer des liens. Voilà. Au début, tu dois faire tes preuves. Tu dois marquer ton territoire, un petit peu dire, je suis nouvelle, je veux pas prendre ta place. Je veux juste apprendre. Et ça, en fait, ça s'acquiert. Et ça, merci au SIX, merci au pool de remplacement, parce que ma faculté d'adaptation, je peux remercier le pool de remplacement. Donc, du coup, mon arrivée, alors pourtant, j'avais des bons échos, mais on a toujours tendance à dire ce qui ne va pas, mais jamais ce qui va. Donc, en fait, on ne me dit rien. On ne dit pas si ça se passe bien, si ça se passe mal. J'ai son sentiment, le seul truc qu'on me disait, si ça se passerait mal, tu serais déjà convoqué par la cadre. Et voilà, parce que les gens ne disaient pas forcément les choses en face, mais ça, c'est... Et c'est ce qui est un peu le côté, c'est... La coiffure, on disait que c'était un monde de fifilles. Honnêtement, j'ai suffisamment de recul, j'ai fait autant coiffeuse qu'aide-soignante. Je trouve qu'il y a le milieu médical, il y a plein de choses de positives, de super, mais c'est quand même un milieu où il y a beaucoup de chippie et de... Je sais pas pourquoi, je sais pas, mais c'est pas non plus un milieu... je pense que comme on vit beaucoup de choses difficiles, il n'y a pas toujours que de la bienveillance. Et ça, faut le savoir aussi qu'on arrive dans le médical. Si on n'a pas l'esprit d'équipe, si on n'aime pas le côté équipe, c'est pas possible. Je ne sais pas ce que vous pensez.
Non, je suis tout à fait d'accord. Et puis, moi, il y a un truc que j'ai toujours déploré, c'est qu'en stage, j'ai vécu des stages assez simples, dans le sens où je n'ai pas eu de difficultés, mais j'ai quand même eu des soignants qui ont été très, très durs avec moi, et même peut-être que plein d'autres de mes collègues. Et moi, je me disais, je ne reproduirai jamais ça sur des stagiaires. Je l'ai peut-être fait, mais en tout cas, j'ai toujours fait en sorte de ne pas le refaire. Mais il y a un peu ce syndrome un peu de vengeance aussi, des fois. Je trouve qu'on répercute toujours des trucs qu'on a vécu et on tombe dans une spirale.
Et ça, c'est...
Je sais pas pourquoi ça peut plomber une équipe. Il y a des équipes qui sont en souffrance. Et puis bon, je trouve aussi on a parfois une bonne photo de l'équipe aussi quand on regarde le ou la cadre qui s'en occupe. Un cadre un peu démissionnaire va faire des équipes qui se relèvent pas de certaines difficultés ou des gens qui n'ont pas d'autonomie ou autre. Mais il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte. Ouais.
Mais effectivement, donc voilà, je tiens juste à dire que voilà. Donc du coup, moi, le côté fifi, finalement, le côté un peu équipe, je l'avais en coiffure où c'était déjà un peu, mais je trouve que quand même, c'est autre chose l'équipe dans le médical. Or, moi, ça me convient très bien parce que je pense que faut y aller quand même pour m'énerver. Je pense que je suis quand même assez au travail. Je pense que je ne fais pas partie des dernières qui... J'ai soif de travailler. Je ne fais pas partie des... on va dire, de ceux qui n'ont pas envie de travailler. Moi, si, au contraire, ma journée, elle passe plus vite si j'ai plein de choses à faire. Donc, même si j'ai une journée calme en réanimation, je vais toujours trouver des commandes à faire, des pleins à faire, aider mes collègues infirmiers, des shampoings. Bah, là, je vais prendre mon temps pour faire des shampoings, des rasages, des coupes de cheveux.
C'est génial.
Ah non, mais là, moi, vraiment, le service, maintenant... Alors, la première année était intense parce que j'avais beaucoup de choses à apprendre. Il faut le reconnaître, j'avais une pression. Je me disais, j'ai pas le droit à l'erreur. Je sais pas pourquoi je m'étais mis autant de pression, parce que personne me la mettait. Pas l'équipe.
Oui, c'est sûr.
Pas l'équipe. Ouais. C'est moi toute seule. Je pense que c'était un challenge pour moi et j'avais envie de réussir. Et d'ailleurs, ma cadre, je l'avais revue. Entre temps, elle m'avait dit, bon, Sandra, pour vous, c'est au top. Donc, ma cadre qui m'avait cassée pendant l'entretien, elle m'avait dit, je vais être honnête avec vous, Sandra. Elle me dit, quand je vous ai vu en entretien, vous avez fait la différence. Je dis, ah bon. Elle me dit, j'ai vu votre dynamisme. Elle me dit, j'ai senti rien qu'à votre démarche, à votre façon de vous exprimer, que vous étiez une dynamique. Elle dit que ça allait faire du bien, cette équipe de réanimation, de ce renouveau, de jeunesse. Et ça m'a hyper touchée parce qu'elle n'était pas du genre à faire des compliments.
Ouais.
Et elle me dit, et puis en plus, elle adorait la coiffure. Donc moi, elle me voyait. Oh, vous avez vu mes mèches, Sandra, qu'est-ce que vous en pensez? Puis moi, j'étais honnête, je lui disais, je pense qu'aujourd'hui, il faut aller chez le coiffeur. Hein. Elle disait, je suis d'accord avec vous, voilà. Et du coup,
mais tu vois, cette histoire de parfois de te ramener, voilà, à ton ancien métier, etc. Le message que j'ai envie de faire passer pour les gens qui envisagent une reconversion, c'est que l'expérience passée, quelle qu'elle soit, vous servira toujours dans un métier médical, paramédical. Et puis, on peut en donner plein des exemples. Hein. Alors, je sais pas, j'ai toujours le métier de comptable qui me revient parce que pour moi, c'est quand même des métiers qui sont très différents. Mais quand on est comptable, on est rigoureux. On est très organisé. Enfin, je pense que je connais mal le métier, mais je pense que
c'est
des qualités qui sont nécessaires. Voilà, donc ces qualités-là, vous allez les transposer dans le milieu médical. Si vous avez travaillé dans la vente, vous avez forcément un contact avec les gens qui est facilité. Donc, pareil, ça, c'est une qualité. Il y a toujours quelque chose de votre expérience passée qui peut vous servir. Et c'est valable aussi si vous êtes jeune étudiant, vous vous êtes lancé dans une fac d'histoire, ou je donne des exemples. Vous passez les concours pour l'école d'infirmière, vous dites, non mais attendez, quel est le rapport entre la fac d'histoire et l'école d'infirmière? Eh ben, il y a plein de choses à raconter.
Il y a toujours des liens. Moi, je parle.
Il y a toujours des liens à faire.
Et puis après, si vous avez envie d'aller dans le médical, il faut foncer, parce que moi, c'est le meilleur choix de ma vie. Clairement, je m'épanouis. J'ai plein de copines, elles disent, j'ai pas envie de bosser. Alors moi, il y a des jours, je le dis, très bien, j'ai envie de rester avec mes filles. Mais je suis toujours contente d'aller travailler. Clairement, même si des fois, on a des équipes avec qui on adore travailler, on a des affinités de travail, c'est indéniable.
Bien sûr.
Mais moi, je m'éclate et pour l'instant, tant que je m'éclate comme ça, je continuerai. Après, le jour où je m'éclaterai plus en animation, il y a plein de postes ailleurs. Je ne veux pas devenir le dinosaure d'un service où la fille est gris. Bah, je préfère changer de service. Voilà. Mais là, pour l'instant, alors, je reviens sur mon métier de coiffeuse. C'est rigolo parce qu'on m'appelle toujours la coiffeuse en réanimation. C'est Sandra, c'est pas nettoyant. Vous savez, des fois, on a des patients, parce qu'on a gardé beaucoup des patients qui ont eu le Covid, je pense. Il y a des patients qui sont restés des mois chez nous avec une trachéotomie, dont un patient qu'on a eu il n'y a pas longtemps, qu'on a gardé longtemps, et qui s'appelait Monsieur R. Et qui m'appréciait beaucoup parce que bah, je l'ai eu beaucoup en charge. Et puis... venait un moment, lui, c'était pas du tout le Covid, mais il avait une amputation, c'était très lourd pour lui. Lui, il avait toujours dit qu'il jamais il aurait voulu être en situation de handicap. Et finalement, waouh, ça a été un guerrier. Et là, il est à Paris aujourd'hui. Et en fait, c'est ironique parce qu'en fait, sa fille était coiffeuse à l'époque. Pareil, elle avait fait une reconversion. Elle s'appelait Sandra. Donc, on en rigolait toujours. Toujours, on disait, mais oui, mais vous êtes comme ma Sandra. Je disais, oui, mais je suis comme votre Sandra. Et en fait, je lui ai coupé les cheveux en réanimation parce qu'un jour, sa fille, elle ne pouvait pas, parce que ça faisait des mois qu'il était chez nous. Donc, vu qu'il était là, il se faisait couper les cheveux par sa fille. Et moi, il m'avait demandé, vous pouvez me couper les cheveux, Sandra? Puis, j'ai fait ça sur un week-end. Les week-ends, en général, c'est plus calme. J'ai pris plaisir. Et en fait, tu dis, waouh, je fais du bien aux gens, en fait. Je lui dis, et puis il me dit tout le temps, mais je vous dois quelque chose. Je dis, non, mais vous rigolez, je suis payée à m'occuper de vous, en fait. Je lui dis, j'ai juste une palette en plus par rapport à certaines collègues, c'est que je sais couper des cheveux. Alors, sans prétention, hein, je dis toujours, maintenant, ça fait très longtemps que je ne suis plus coiffeuse, je dépanne. Je ne remplacerai plus les coiffeuses qui sont sûrement à la dernière mode. Je lui dis, mais je dépanne. Donc, du coup, je fais toujours... je fais toujours des tresses parce que des patients qui sont intubés, alors moi on me reconnaît. En général, quand on passe derrière ma chambre, on dit ah, c'était Sandra là. Que je fais des tresses pour pas qu'ils aient des nœuds.
Quand on est allongé, l'arrière de la tête sur un oreiller,
les escarres aussi.
Bien sûr.
Je suis hyper vigilante sur ça. Je pense que j'ai un autre regard j'apporte. Et à la fois, je pense que mon métier d'étoyante, maintenant, je le connais très bien. J'ai pris de l'assurance, surtout en réanimation où je fais plein de choses. Je m'éclate. Et là, j'avais un cadre encore qui est devenu notre ancien cadre est parti. On avait un super cadre jusqu'à présent qui est parti, qui est devenu notre grand cadre, notre cadre supérieur. Et lui, il me pousse à devenir infirmière. Alors, j'ai fait les démarches encore pour faire le dossier, là. J'ai dit, il m'a tellement motivée, il m'a tellement portée. Il me dit, je crois en vous, Sandra, faut y aller. Faut faire l'école d'infirmière. Oh. Et en fait, j'ai fait un gros marche arrière dans le sens où, là, actuellement, j'ai deux petites filles, 4 ans et 2 ans. Et l'investissement, 3 ans d'études, la route, je me sens pas. Alors lui, il me dit, non, mais Sandra, vous êtes capable de le faire. Je lui dis, je pense être capable de le faire. C'est juste que là, ma situation personnelle ne le permet pas, en fait. Et je suis pas fermée. Je le referai plus tard. Mais ce que je veux dire aux gens, c'est qu'il faut être prêt dans sa tête aussi à entamer une formation.
Avec tout ce que ça implique.
Ça implique un bouleversement. Même ma formation d'aide-soignante qui a été un an, elle a été intense. Et je n'avais pas d'enfant à ce moment-là, et j'étais investie à 100%, si tu veux réviser, parce qu'en fait, la première année, elle est comme la première année un peu d'infirmière, un petit peu. Moi, j'étais dans un IFAS où il y a un niveau d'exigence qui est assez élevé, qui est connu sur la région. Donc du coup, moi, je m'étais mis une pression et je ne me sentais pas là sur les 3 ans de m'investir. C'est un projet. Je me dis, je suis jeune, j'ai 32 ans, hein, je ne suis pas fermée à reprendre mes études.
C'est ça, ça reste dans un coin de ta tête. Mais c'est vrai que c'est les 3 années de l'école d'infirmière et l'année pour devenir aide-soignant, pour moi, je les mets au même niveau. Pendant ces 3 ans ou pendant cette année, il n'y a pas 2 choses qu'on répète. Hein. Je veux dire, c'est une formation qui n'est d'une densité rare, où on fournit l'essentiel. Enfin, moi, vraiment, quand j'ai été jeune infirmière, je me suis dit « Waouh !» Le nombre de choses que je vais apprendre sur le terrain, que je n'ai pas vu à l'école, ou si peu, ou de façon si courte. Il y a tellement, tellement de domaines d'exercice, tu l'as dit, hein. Y a tellement de façons de travailler, la médecine évolue tellement vite. Les études, pour moi, la durée des études n'est pas confortable, ni pour une carrière d'aide-soignant, ni pour une carrière d'infirmier.
Ah bah, et clairement, là, j'en parlais beaucoup avec mes collègues, il y a eu le Covid, là. Ça a mis un peu en lumière ces métiers, cette réanimation. Et en fait, moi, j'arrête pas de dire, mais moi, je pense qu'il nous manque une formation. Ça devrait être une spécialité, la réanimation, aussi bien au niveau infirmier qu'au niveau aide-soignant. Donc, il y a des DU pour les infirmiers, mais au niveau aide-soignant, il y a tellement un glissement de tâches et un niveau de compétence qui manque une petite... Ça devrait être une spécialité. On choisit cette spécialité, parce qu'on ne le voit pas à l'IFAS. Les intubations, nous, dans mon service, c'est nous qui aidons les médecins à intuber les patients. Les infirmières, elles sont aux drogues. Nous, on prépare le tube d'intubation, on prépare le BAVU, on ballonne le patient, on donne l'équipement. Ça, on ne le voit pas dans un autre service. Pareil, les poses de voix, c'est ce que je te disais, c'est nous. Au déchocage, on doit savoir scoper un patient. Donc, les constantes, même si on le voit, eh ben, faut être au top sur... Moi, avant d'être en réanimation, je ne savais pas ce que c'était un hémo-Q. Donc, ça, c'était quelque chose qu'on ne voyait pas, que je ne savais pas qu'avec une petite goutte de sang, tu pouvais savoir le taux. Voilà, il y avait...
L'hémoglobine du patient, c'est sûr. C'est pas des appareils qu'on voit dans tous les services. C'est très spécifique.
Les respirateurs, parce que toi, en tant qu'aide-soignant, tu dois être en mesure de savoir ce qui se passe. Ton patient, il est intubé. Il faut savoir s'il ventile bien. Donc il faut que tu saches, il y a plein de choses que tu dois apprendre.
Moi, je s'il y a des choses pour lesquelles on ne te forme pas, il y a des choses en tout cas pour lesquelles tu dois être en capacité d'alerter l'infirmier avec lequel tu travailles. Ouais. Ça veut dire être ses yeux, pas forcément être ses mains, mais pour beaucoup de situations être ses yeux.
Et d'ailleurs,
c'est lourd.
Le Covid, du coup, on s'est retrouvé, c'est ce que je te disais dans mon mail, on s'est retrouvé un petit peu. Il y a eu surtout, alors moi j'étais enceinte pendant le Covid, donc j'ai été là au début du Covid, après j'ai été arrêtée, puis je suis revenue après. Et en fait, mes collègues infirmiers me disaient « Tu peux pas savoir l'enfer qu'on a vécu sans les aides-soignantes, nos aides-soignantes de réanimation. » Parce qu'en fait, ils ont eu des fois des aides-soignants qui étaient des élèves infirmiers. En troisième année, ils me disaient « Mais les niveaux... » C'est pas péjoratif, mais c'est comme un forgeron. Tu deviens un forgeron en forgeant. Et un élève, il n'avait pas le niveau pour être aide-soignant en réanimation, bien clairement. Sûr. Même nous, en fait, en réanimation, ce qui s'est produit, c'était des infirmiers du bloc qui prenaient notre place d'aide-soignante en réanimation. Oh, ils prenaient pas le poste d'infirmière parce qu'ils n'avaient pas du tout la même formation.
Non.
Et maintenant encore, c'est marrant parce qu'il y a des infirmiers qui disent « Oh là là, qu'est-ce que c'est trop bien !» ou des infirmières qui nous disent « C'est trop bien d'avoir notre aide-soignante de réanimation. » Elle dit « T'es... » Parce qu'en fait, on fonctionne en binôme. Après, on n'a même plus besoin de se dire les choses. On sait ce qu'on a à faire et hop, c'est une danse. On fait autre chose, on parle, mais le boulot est fait. Et dit qu'à les infirmiers, pendant le Covid, ils ont dû dire tout ce qu'ils devaient faire à leur binôme. Ça, niveau charge mentale, ça a été très difficile.
Ça devait être quelque chose, voilà. C'est sûr. Bon, bah merci Sandra. Bravo pour tout ça. Et puis, donc la porte reste ouverte à une éventuelle formation supplémentaire d'infirmière. À suivre.
Affaire à suivre.
Tu reviendras me raconter ça ici si ça se fait.
Oui, promis. Laisse-moi un peu de temps réfléchir.
Oui, c'est ça, exactement. On te laisse quelques années quand même. On va finir cet épisode par le petit portrait chinois.
Oui.
Alors, attention, innovation. J'ai modifié toutes les questions. On repart sur un nouveau set de questions pour apprendre à te connaître encore mieux. La première question, que dirais-tu à la Sandra d'il y a 10 ans?
Je lui dirais, mais fonce. N'hésite pas, pose-toi pas de questions, démissionne avant. N'attends pas d'être... vas-y. Va dans le médical avant de... fonce.
Trop bien. Question suivante, plutôt cantine ou lunchbox?
Lunchbox. J'aime bien avoir ma petite glacière, mon petit tupperware. Non, lunchbox.
question suivante, qu'est-ce que tu as appris pendant l'exercice de ta profession et que tu n'avais pas appris pendant tes études?
Tous les soins techniques, vraiment la connaissance du matériel, même d'élèves malades, tout ça, j'ai pas vu ça en formation. Voilà, plutôt la connaissance technique, c'est sur le terrain qu'on apprend et c'est pas à l'école.
Pas dans des livres et pas à l'école.
Non.
Question suivante, la chanson qui te booste quand tu as un coup de mou?
Alors moi, c'est pas une chanson, c'est une playlist. J'ai la playlist latino. Quand ça va pas, je me mets ma petite playlist latino et je peux être sûre que j'ai mes origines latines qui me parlent. Tout de suite, je me sens mieux.
Voilà. Très bien. Alors, on va garder le conseil, du coup. Créez-vous une playlist et pas juste une chanson. La plus belle phrase qu'un patient t'ait dite?
J'ai un patient qui m'avait dit « Restez comme vous êtes, ne perdez pas votre humanité ». Voilà, ça m'avait beaucoup touchée.
Oh, c'est beau. C'est
très, il m'avait touchée, oui.
Dans un autre registre, ton meilleur fou rire au travail?
Alors, le meilleur fou rire, il n'y a pas longtemps... J'ai essayé de me souvenir, voilà. Et en fait, on était en service, c'était plutôt calme. On a eu une canalisation d'eau chaude qui a carrément explosé sous notre tête. En fait,
ah.
Il y a un mois en arrière, et en fait, c'est parti explosion parce qu'on est en réanimation, il y a plein de, il y a plein de respirateurs, et j'ai des collègues, on s'est retrouvés à avoir une piscine dans les chambres, à tout évacuer, à mettre des draps par terre. Puis en fait, une fois que la canalisation d'eau a été coupée, on a dû nettoyer, mais ça a fini en bataille d'eau, en fait. Mais le service était calme. Le service était calme, on a bien rigolé, quand même. Voilà.
Je vois complètement. Et la dernière question, un titre de film qui résume ta carrière?
Je dirais, je n'ai pas réfléchi, c'est vrai que je ne l'avais pas vu. J'ai dit l'évidence, je pense, l'évidence.
Ah, très bien.
L'évidence.
Mmh. Ouais, ça résume bien.
Voilà.
Bon, ben, grand merci Sandra.
Merci à toi, ça a été un plaisir d'échanger avec toi.
Eh ben, tout le plaisir était pour moi. Puis alors là, écoutez, s'il y en a encore qui se posent des questions sur une éventuelle reconversion, voilà, je pense que le témoignage de Sandra, normalement,
foncé.
vous aura convaincu de foncer.
Foncez, foncez. Vraiment, sincère.
Merci Sandra.
Merci
et bonne
toi.
Continuation.
Merci Marielle.
Un grand merci à Sandra pour son partage d'expérience. Elle m'a très gentiment proposé de partager avec vous son compte Instagram que je vous glisse en description de cet épisode. N'hésitez donc pas à la contacter si vous avez une question au sujet d'une éventuelle reconversion. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.